Pierre Jacques Cosne, La Dame d'Auteuil. Chapitre 1, La poésie sous les toits. Dans les premiers mois de 1836, un homme dont l'accent décelait l'origine gasconne vint louer un petit appartement de 3 pièces au 5e étage dans un hôtel de la rue de l'Ouest, situé derrière le Luxembourg. Son bagage était des plus minces, son costume des plus modestes, mais il y avait un tel cachet de bonne foi sur sa physionomie, tout en lui respirait tellement l'honnêteté et la distinction qu'on lui loua de confiance. Cet homme, qui pouvait avoir une 40aine d'années, amenait avec lui sa fille, une jeune personne de 15 ans au plus, charmante et gracieuse, portant sa petite robe d'indienne trop courte, comme il portait lui-même son habit noir sur un nez, c'est-à-dire de manière à donner à croire qu'une telle mise n'était pas faite pour elle. L'arrivée de ces deux locataires mystérieux causa une sorte de sensation dans l'hôtel, et pendant 2 ans que M. Danglade habita rue de l'Ouest, la curiosité qu'il avait excitée tout d'abord subsista et ne fut jamais satisfaite. Mais, singulier effet de ses manières, ce qui de la part de tout autre aurait produit une impression défavorable, augmenta au contraire la considération qu'il s'était concilié sans l'avoir cherché. Monsieur Danglade sortait le matin de très bonne heure, il ne rentrait que le soir vers 6 heures, montait chercher sa fille qui l'attendait, et tous les deux prenaient silencieusement le chemin de Viau, le restaurateur providentiel du quartier latin. Les habitués du lieu n'avaient pas été sans remarquer la jeune fille. Aussi, quand Monsieur Danglade et Berthe faisaient leur entrée dans le restaurant, un murmure d'admiration courait de table en table. La pauvre enfant avait ensuite à soutenir une artillerie d'œillades, si persistante et dirigée avec elle ensemble, que littéralement elle ne pouvait les yeux de dessus son assiette. Après le dîner, M. Danglade ramenait sa fille et ressortait tout de suite pour ne rentrer qu'à minuit au plus tôt. Que pouvait faire, durant les longues heures de sa solitude, cet enfant ainsi abandonné à elle-même? Appuyée sur le petit balcon de sa fenêtre, elle rêvait. Et ce qui occupait sa pensée, ce qui attirait ses regards, ce n'étaient pas les beaux arbres de Luxembourg ou le magnifique panorama de Paris se déployant au loin. C'était bien plutôt ces rares promeneurs qui passaient, solitaires et pensifs sous les allées ombreuses du jardin. C'était encore aux 1000 fenêtres qui s'ouvraient de toutes parts, des femmes riches, heureuses, c'est-à-dire parées, des jeunes filles préparant leur toilette pour le bal du soir. Pour l'âme jeune, pour le cœur enthousiaste, pour la pensée inquiète et troublée, la solitude a ses dangers, et comme déjà Berthe détestait la vie monotone qu'elle menait, elle s'arrangeait un avenir tout plein de délices et brillant de plaisir. Le monde était pour elle quelque chose d'enivrant. Ce qu'elle envoyait par échappée, ces belles jeunes femmes traversant parfois auprès de leurs frères ou de leurs maris les massifs du Luxembourg, ces voitures qui, par le beau soleil, se découvraient pour laisser voir la soie de leur intérieur, ces laquais aux livrées éclatantes, ces plumes que cachaient à demi de petites ombrelles blanches, roses, lilas, tout cela ondoyant, plumes, femmes, or, couleurs, au balancement moelleux des équipages, oh, tout cela la ravissait, la rendait folle. Puis, quand son regard se reportait sur l'étoffe terne et fanée de sa robe, sur sa petite chaise de paille, sur les pauvres meubles de sa chambre, elle pleurait. Et cependant, aucune pensée mauvaise n'avait altéré la sérénité de son front. Elle était chaste et naïve encore, comme au sortir des mains de Dieu. La fenêtre de Berthe, bien que dominant le jardin du palais des pères, donnait aussi sur la cour de la maison qu'elle habitait. Vis-à-vis de cette fenêtre, dans l'aile opposée, qui était moins haute d'un étage, s'ouvrait un châssis à charnières, donnant du jour à une petite chambre, laquelle était occupée par un jeune artiste, un sculpteur, dont la vie se passait à travailler ou à flâner. L'artiste s'appelait Lucien Bressan. Il était grand et fort, hardi d'allure, franc de physionomie et de parole, spirituel, ardent, paresseux et poète. Poète au point d'avoir gardé au milieu du bouffon scepticisme des ateliers sa foi en Dieu et sa croyance en l'amour. Lucien avait été mauvais garçon comme tant d'autres. Il avait mené la vie d'artiste après la vie d'étudiant, mais il n'était point de ceux que le plaisir blase ou tue. Au rebours de ces pauvres natures qui, téméraires dans leur faiblesse, attaquent étourdiment la vie aventureuse, se prennent un jour corps à corps avec elle, puis s'affaissent bientôt, pour s'éveiller, honteux débris, veufs à 20 ans de ce qu'ils appellent des illusions. Revenu à lui, il s'était remis à marcher d'un pas ferme. Il était homme et se sentait au complet. Mais par cela seul que ses sens n'étaient pas émoussés, que son cœur était demeuré vierge et son énergie entière, il fut à 25 ans une sorte d'exception bizarre au milieu de cette foule d'hommes alanguis par les excès. Il vécut une vie excentrique et changeante, tournant, pour ainsi dire, au vent de sa fougueuse inconstance. Nature chevaleresque et dévouée à l'excès, il eût été impossible de se baisser pour passer par cette porte basse de la nécessité dont parle le grand poète. Et cependant, Lucien n'avait pour subsister que son art. Sa fortune, moins robuste que lui-même, avait succombé dès longtemps. Il travaillait, mais par boutade, et son talent d'ailleurs n'était pas de ceux qu'affectionne la masse. De temps en temps, son ciseau produisait une ébauche devant laquelle ses confrères s'arrêtaient avec admiration. Mais avant que l'ébauche fût terminée, l'inspiration semblait se perdre en lui. Et, soit nécessité, soit fantaisie, son atelier se remplissait ainsi d'œuvres inachevées. Toutefois, malgré cette apparente impatience, Lucien avait en lui le germe de ces talents originaux qui sont destinés à triompher de l'inattention de la foule. Comme André Chénier, il se sentait dans le cœur et dans la tête la fièvre ardente, inquiète du génie, et sans qu'il sût précisément vers quel but il marchait, il comprenait que, quelques jours, le voile se déchirerait et que la gloire apparaîtrait dans toute sa splendeur à ses yeux éblouis. Avant l'époque où M. d'Anglade vint habiter la rue de l'Ouest, on rencontrait souvent Lucien, assis sur un banc solitaire, au fond du Luxembourg. Il était rarement triste. Le plus souvent, sa physionomie portait l'empreinte d'une insouciance et d'une tranquillité parfaite. Comme Berthe, il rêvait. Mais ses rêveries à lui n'avaient pas pour objet un monde fantastique. C'était le monde réel, considéré d'un point de vue trop poétique peut-être, mais embrassé d'un coup d'œil vaste et perplexant. Le rêve de Lucien était tout à la fois une inspiration et un souvenir. Un souvenir sans regret, car il n'avait rien perdu, et une aspiration sans inquiétude, car il se moquait de ses désirs qui, gloire, amour, fortune, changeaient 20 fois en 1 heure. Souvent, il prenait ses tablettes et écrivait rapidement quelques vers, non moins brillants et aussi peu achevés que ses ébauches de sculpture. Ce devait être un curieux album que celui de cet homme, qui ne déniait rien et connaissait tout, hors le mensonge ou la bassesse. Vers le commencement de 1836, peu après l'arrivée de M. Langlade, Lucien changea tout à fait de conduite. Ses promenades au Luxembourg cessèrent, mais sans que pour cela son atelier le vît davantage. Il passait sa vie dans sa petite chambre au premier étage. Là, il écrivait ou modelait presque sans relâche. Il semblait pris d'un subit accès d'activité. Qu'était-il donc arrivé à Lucien pour qu'il abandonnât ainsi ses habitudes aimées de flânerie ou de paresse? Il avait vu un jour Berthe à sa fenêtre. Il l'avait trouvée belle et il l'avait aimée. Dès que l'image de Berthe était venue se placer sous le regard du jeune artiste, l'idée d'un amour nouveau, puissant, fécond, s'était emparée souverainement de son esprit. Celui fut tout d'abord une fatigue étrange et impatiemment supportée. Cet amour l'effraya sérieusement. Il eut une velléité de fuir, mais il eut fallu se faire violence. Il resta. Bientôt, sa passion le dominant entièrement, il fit trêve à son activité passagère. Vous l'eussiez vu tous les jours, caché derrière les rideaux de sa fenêtre, dévorant des yeux la jeune fille et n'osant se montrer. Berthe, de son côté, n'avait pas été sans remarquer la belle figure de l'artiste, son voisin, mais, absorbée dans son désir inquiet, elle avait donné peu d'attention à Lucien, et lorsque celui-ci, dans le but singulièrement détourné d'avancer ses affaires, s'avisa de se cacher entièrement, elle n'y pensa plus. Cependant, la passion de Lucien grandissait sans mesure. L'imagination de l'artiste, exaltée jusqu'au délire, menaçait d'éclater en folie. Cet état était d'autant plus dangereux que Lucien, n'ayant pas d'amis assez intimes pour recevoir ses confidences, il restait entièrement livré à lui-même. Cependant, cette crise devait se dénouer sans catastrophe aucune. Un jour, Berthe était, comme à l'ordinaire, appuyée sur sa fenêtre. Il faisait une délicieuse journée, le soleil étincelait, le vent frais et pur du matin apportait les murmures et les parfums des arbres du Luxembourg. Berthe écoutait les mélodies caressantes que chantaient dans son cœur la joie et l'espoir de ses jeunes années. Tout à coup, quelque chose effleura légèrement les grappes soyeuses de ses cheveux noirs et s'en alla tomber au milieu de la chambre. Berthe, surprise, leva les yeux et interrogea du regard les fenêtres qui lui faisaient face. Une seule était à demi ouverte, c'était celle de l'artiste. Mais la chambre était vide, nul mouvement du moins, ni décelait la présence de quelqu'un. Berthe, curieuse comme doit l'être toute jeune fille de 15 ans, se précipita vers l'objet qui gisait à ses pieds. Quelques secondes après, elle dépliait un petit rouleau de papier sur lequel étaient écrits ces deux vers. « Dans ton œil caressant, je lis un doux émoi. Tu rêves, bel enfant. » Mais ce n'est point à moi. » Berthe resta quelques secondes, la tête baissée, puis elle alla refermer la fenêtre. À ce moment, le pauvre Lucien, qui, caché derrière le rideau de sa fenêtre, épiait la jeune fille, se prit à regretter amèrement sa démarche. Il eut peur de s'être aliéné sans retour ce cœur qu'il supposait plus candide qu'il n'est probablement cœur de femme sous le ciel. Puis, comme il crut qu'il ne parviendrait jamais à faire partager son amour, après une journée entière passée dans une anxiété fiévreuse, Il se résolut à combattre bravement un sentiment qui ne lui offrait aucun espoir. Cependant, le lendemain dès l'aube, il était établi de nouveau à son poste d'observation. Ainsi qu'il l'avait pensé, Berthe s'était offensée de la façon dont la déclaration lui avait été adressée. Toutefois, elle était femme, et cet incident suffit à troubler sa vie déjà si inquiète. Évidemment, ce billet ne pouvait venir que de son voisin. Elle ne s'y était pas un instant trompée. Ainsi que Lucien, elle prit dès lors la résolution d'éviter soigneusement de tourner les yeux vers la fenêtre du jeune artiste. Mais comme Lucien, elle n'eut ni l'énergie ni la fermeté nécessaires pour tenir sa résolution. Elle regarda donc, et ce premier regard fut suivi d'un premier désappointement. Elle n'aperçut personne. Et tout le jour, des pensées étranges vinrent la visiter. Pensées vagues encore, qui n'avaient pas même l'artiste pour objet exclusif, mais n'est-ce pas déjà beaucoup déjà d'être l'occasion de pareils rêves? Lucien, toujours caché, assistait invisible à ce petit drame tout intérieur. Il revivait, pour ainsi dire, et l'espoir pénétrait radieux dans son cœur qui l'illuminait. Toutefois, les craintes de l'artiste avaient été d'abord trop vives pour qu'il pût reprendre tout de suite son aplomb naturel, et il fut 5 ou 6 jours sans se montrer. S'il se faisait si timide et savourait en idée les douceurs d'un amour encore inaccepté, ce n'est pas qu'il y trouvât une satisfaction d'amour-propre ou tout autre bonheur de convention. Non. Lucien aimait avec toutes les facultés de son âme, et cette femme, dont le chaste sourire lui promettait tant de bonheur, il l'entourait de respect et de vénération. Un des effets heureux et immédiats de cet amour fut de ramener Lucien au travail. Il y retourna avec ardeur, avec enthousiasme. Maintenant, il croyait à l'avenir, il le voyait, il le touchait du doigt. Et puis, il voulait devenir célèbre. Il avait désormais un but dans la vie. Il avait à se rendre digne de la femme qu'il aimait. Il voulait faire son nom plus grand pour que la femme à laquelle il allait l'offrir en pût être heureuse et fière. Il avait repris son travail d'atelier. Il sculptait maintenant, comme au temps de ses promenades solitaires, et pour rien au monde il n'eût voulu se laisser distraire de cette activité qu'il avait reprise. Déjà, il y avait un chef-d'œuvre dans cet atelier, dont les marchands, les amateurs, avaient presque oublié le chemin. Dans un coin, sous un voile de soie blanche, se cachait une statuette 2 pieds de haut que nul n'avait été admis à contempler. C'était Berthe, Berthe divine de beauté, Berthe parée de la candeur merveilleuse à laquelle ajoutent encore l'admiration et l'amour. Un véritable chef-d'œuvre. Un jour, Lucien travaillait seul dans son atelier. Un bruit, oh depuis longtemps inusité, lui fit tourner la tête. Des pas résonnaient sur le pavé du petit vestibule. Il allait recevoir une visite. D'un regard rapide, il s'assura que la statuette de Berthe était bien couverte de son voile, et il attendit. Chapitre 2. La statuette. Un jeune homme entra. Il pouvait avoir une 30aine d'années. Il était mis avec une certaine recherche, portait un lorgnon et fumait un cigare. Il s'appelait le comte Aymard de Nogent. C'était un ami des artistes et par hasard, il se trouvait être un amateur passable. Il avait pour Lucien une véritable affection qui avait sa source dans l'estime qu'il professait pour son talent. « Enfin, je vous trouve, mon bon !» s'écria le comte en serrant la main du sculpteur. « Vous m'avez donc cherché ?» fit Lucien en souriant. « Ma foi, cher, repartit le visiteur, je vous croyais mort. Sincèrement, je suis venu deux fois. J'existe cependant. Je le vois, pardieu bien, mais vous avez été malade ? Non. Vous avez fait un voyage, alors ? Pas davantage. Où étiez-vous ? Dans les nuages. Qu'est-ce à dire ? Je m'étais fait poète. Poète ? Répéta le comte avec effroi. Et le dandy, essuyant son lorgnon, commença sa revue. Lucien continuait de travailler en lui tournant le dos, ce qui permettait à M. de Nogent de hausser les épaules et de sourire en toute sécurité. Tenez, poursuivit-il, tôt après, tout en examinant avec une attention de connaisseur les richesses de l'atelier, j'avais besoin de me retremper un peu. Avez-vous donc quitté Paris ? Demanda Lucien. J'ai visité l'Italie. Terre classique des arts. Comme vous dites. Et vous étiez seul ? Non, pas. Ah, je comprends. Quoi donc ? Je ne veux pas être indiscret. Mais vous ne l'êtes pas, mon bon. Et qui donc vous accompagnait ? Mademoiselle de Nogent, ma sœur. Ah, pardon. Le comte poussa un éclat de rire. Ces artistes, dit-il avec enjouement, cela ne rêve qu'aventure, enlèvement, voyage sentimental. Ils sont tous les mêmes. Il n'y a pour eux qu'une seule chose au monde, l'amour. Et encore, j'en connais qui pensent même que l'amour n'est pas de ce monde. Et cela ont peut-être raison, dit Lucien d'une voix grave. Le comte continuait son inspection tout en causant. Oui, cher, reprit-il, le médecin avait conseillé un climat généreux pour ma petite sœur. Une enfant délicate, nerveuse, une jolie petite plante de serre, qui se trouvait mal à l'aise au milieu de notre atmosphère empestée. Ma foi, le remède était bon, et nous voilà, elle et moi, revenu en bonne santé. C'est merveilleux. Savez-vous, Lucien, que ma sœur raffole de vos statuettes ? Mademoiselle de Nogent me fait beaucoup d'honneur. Le comte haussa les épaules. Mademoiselle de Nogent, répliqua le comte, est une imagination ardente, un cœur enthousiaste. Elle tient cela de famille. Et comme elle a vu votre Sappho dans mon cabinet, elle veut absolument quelque chose de vous. C'est pour cela que je suis venu ce matin. Malheureusement, je n'ai rien en ce moment. Bah ! Le comte venait de s'arrêter devant une ébauche. Et votre baigneuse, dit-il avec vivacité, je connais cela ? « Diable, mais c'est beau, mais très beau, sur ma parole. Pourquoi ne pas l'achever ?»« Je n'ai pas le temps, » répondit Lucien. « Ah, c'est dommage !» Lucien poursuivait son travail. « Ainsi, vous n'avez rien de nouveau, » dit le comte en reprenant son examen. « Des sonnets, » fit Lucien sans se détourner. S'il vous plaisait d'en entendre. Monsieur de Nogent recula jusqu'au bout de l'atelier et se trouva vis-à-vis de la statuette couverte. « Qu'est-ce là ? » dit-il en soulevant le voile de soie. « Des sonnets ? Non, ce sont de petits poèmes en 14 vers. Non, 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 délicieux sur ma parole, murmura le comte en extase. Coupé en deux quatrains et... Bressant ! S'écria le comte. Vous êtes un grand artiste ! Vous trouvez ? Dit Lucien en se tournant tranquillement. Mais à peine eut-il vu Monsieur de Nogent, dont la main tenait encore le voile, que son front devint d'une pâleur livide. D'un bond, il fut auprès de lui. « Vous l'avez vu ? » dit-il d'une voix étranglée. « Pardieu !» Lucien prit la statuette à deux mains et fit le geste de la précipiter sur le pavé. Heureusement, le comte le retint. « Mais êtes-vous fou ? » lui cria-t-il. « Laissez-moi !» fit le sculpteur en cherchant à se dégager. « Mais vous avez fait là un véritable chef-d'œuvre, mon ami ! Que diable, c'est de la folie, cela ! Voyons, oh, je vous en offre 2 000 écus !»« Non, taisez-vous. Ben, j'irai jusqu'à 3 000 !» Lucien fit un effort sur lui-même, remit tranquillement la statuette sur le bahut où le comte l'avait prise et entraîna ce dernier vers le côté opposé de l'atelier. Il était très pâle. « Monsieur le comte, dit-il d'un accent solennel, voilà 10 années que je travaille avec ardeur, cherchant infatigablement ma voie au milieu des sentiers perdus de l'art, usant ma force, ma jeunesse à ce labeur surhumain. Aujourd'hui, je suis encore inconnu et j'ignore si la gloire que j'ambitionne doit m'apporter jamais la réalisation des rêves que j'ai bercés. Eh bien, je vous le dis, s'il m'était prouvé que cette gloire ne peut s'acquérir qu'au prix de cette statuette vendue, passant de main en main, je n'hésiterai pas, monsieur le comte, et je renoncerai à tout plutôt que de se consentir à une telle profanation. Je le disais ou bien, fit le comte avec un reste de raillerie, vous êtes insensé. Non, je suis amoureux. Oh, c'est bien pis. Lucien sourit. Vous ne croyez donc pas à l'amour, monsieur le comte ? Dit-il avec plus de calme. Si fait, répondit le comte. Alors vous pensez que je suis incapable de l'éprouver ? Au contraire, cependant, cher, je vous trouve très jeune de cœur, très jeune de raison, et tout cela m'épouvante pour vous. Voyons, voulez-vous me permettre de vous adresser quelques questions ? À votre aise, vous ne m'en voudrez pas. Mais si vous n'étiez pas mon ami, monsieur de Nogent, et si je n'étais pas sûr de votre discrétion, vous n'auriez pas impunément, je vous le jure, soulevé le voile qui couvre mon trésor. Le comte s'assit près de Lucien. Ainsi, dit-il, vous êtes tout à fait amoureux. Sans doute. La jeune fille est belle, vous le savez maintenant. Et elle vous aime? Je l'ignore encore. Du moins, la voyez-vous souvent? Tous les jours. Elle habite peut-être cet hôtel? Précisément. Diable, et vous avez l'intention de l'épouser? Oui, certes. Le comte fit une moue aristocratique. « Une petite bourgeoise, » dit-il dédaigneusement. « Moins que cela, peut-être, une grisette, » repartit Lucien. « Y a-t-il quelque fortune ? Je m'en inquiète peu. Mais sa famille, je ne la connais pas. » Le comte fit un soubresaut. Il prit la main de Lucien et la lui serra. « Mon bon, lui dit-il à voix lente, prenez bien garde à ce que vous allez faire. La maladie dont vous êtes atteint me paraît des plus graves, et puisque vous me permettez de vous parler avec franchise, je vous conseille de bien réfléchir avant de... » « Mais c'est le bonheur qu'un pareil amour, » fit Lucien. « Peut-être, » répondit le comte. En parlant ainsi, il reprit son chapeau et ralluma son cigare, puis il se dirigea vers la porte. Avant d'en franchir le seuil, il jeta un dernier regard sur la statuette et la désignant du doigt à Lucien. « Enfin, dit-il au sculpteur, n'oubliez pas que je vous en ai proposé 3 000 écus. » Et il s'éloigna. Lucien, mécontent du comte, mécontent de lui-même, sourdement inquiet de 1000 craintes vagues, ferma la porte de l'atelier à double tour et revint se placer à quelques pas de la statuette. Il resta longtemps absorbé dans une contemplation muette et extatique, la poitrine oppressée, le regard fixe, l'esprit flottant entre 1000 résolutions contraires. « De l'or !» murmurait-il de temps en temps. « Il m'a offert de l'or pour elle !»« Oh, dans quel monde vivent-ils donc, ces hommes ? À quelle femme vont-ils porter leur amour ? Ont-ils un cœur seulement ? Oh, Berthe, Berthe !» Sa main passa rapidement sur son front. Il prit la statuette et fit quelques pas à travers la chambre. « J'ai eu tort, dit-il, j'aurais dû la cacher à tous les yeux. J'aurais dû m'attendre à ce qui est arrivé. Pauvre Berthe, j'étais égoïste. Je n'ai pensé qu'à mon bonheur. J'étais si heureux de l'avoir là, près de moi, jour et nuit, belle et chaste, tendre et rêveuse, comme dans la réalité. Oh, j'étais insensé. Je ne veux plus l'exposer à une semblable injure. » Lucien souleva vivement la statuette et fit une seconde fois le geste de la briser. Il s'arrêta. On eût dit qu'au moment de se séparer violemment de l'image aimée de Berthe, un suprême déchirement se faisait dans son cœur. Quelques larmes amères emplirent ses yeux. Puis il approcha le marbre de ses lèvres frémissantes et déposa sur le front de la jeune fille un muet et long baiser. « Oh Berthe, dit-il, c'est la première fois que j'ose, pardonnez-moi. Je vous aime, Berthe, comme jamais ange n'a été aimé. C'est peut-être un éternel adieu, qui sait. Ah, que du moins à l'avenir, nul ne doute, par ma faute, ni de votre pureté, ni de mon amour. Adieu, Berthe, adieu. » Et la statuette, s'échappant des mains de Lucien, alla toucher le pavé et se brisa. Comme on le voit, l'amour de Lucien avait pris en peu de temps un développement excessif. À mesure qu'il avançait dans cet amour, qui s'était emparé de son cœur avec tant de violence, l'artiste s'isolait davantage et vivait sans chercher à savoir ce qui se passait au-delà de la maison qu'il habitait. Son monde à lui, c'était sa chambre. L'horizon qui plaisait le plus à son regard, c'était la fenêtre à laquelle Berthe venait s'accouder. Il ne s'était pas demandé pourquoi la jeune fille restait ainsi seule toute la journée, sans personne qui veillât sur elle. Il ignorait tous les détails de sa vie passée. Berthe était belle. Lucien avait vu sur son front et dans son regard tout ce qu'un cœur de jeune fille peut receler de pureté et de candeur. Et lui, pauvre artiste aimant, s'était abandonné sans défiance. Bientôt, cependant, Lucien se crut complètement heureux. Le regard de Berthe, qui se posait parfois sur le sien pour s'y oublier de longues minutes, lui apportait l'enivrante promesse d'un amour partagé, et il frissonnait jusqu'au plus profond de son cœur quand ce regard venait à lui comme un doux encouragement. Mais peu à peu, ces satisfactions vagues et insaisissables ne lui suffirent plus. Il eut des heures de découragement. Il redevint triste, taciturne. Il songea avec désespoir qu'un monde le séparait encore de celle qu'il aimait et qu'il ne lui avait jamais parlé. Parfois aussi, la jalousie le mordait douloureusement au cœur. Il avait mille terreurs. Il craignait à chaque instant de la perdre. Sous le prétexte d'avoir un jour meilleur, il imagina de louer une chambre contiguë au petit appartement qu'occupait Berthe. La jeune fille n'avait alors aucune raison pour le craindre ou pour le fuir. Elle ne sentait pas d'ailleurs en elle cette plénitude de passion qui emportait Lucien, et elle pouvait se croire forte contre les dangers d'un tel rapprochement. Et puis, elle avait confiance dans le jeune artiste. Instinctivement, elle avait deviné en lui une nature droite, loyale, généreuse. Sans le connaître, elle savait qu'elle pouvait abriter son honneur sous son amour. Seulement, le sentiment qu'elle éprouvait n'était qu'un simple amour de jeune fille ambitieuse et coquette, une tendresse sans puissance comme sans dévouement. Et tandis que Lucien lui apportait tout ce qu'il avait de jeunesse, d'enthousiasme et d'ardeur, Berthe se contentait de se laisser aimer, et elle s'endormait chaque soir, sans désir, comme chaque matin elle s'éveillait sans trouble. Lucien résolut bientôt de demander la main de Berthe à son père. Et tout de suite se présenta à son esprit une réflexion qu'il s'étonna naïvement de n'avoir point encore faite. Quel était M. Danglade? Que faisait-il? Comment vivait-il? Lucien venait de mettre le pied dans le domaine de la vie réelle, et déjà il se trouvait arrêté. Alors il s'informa, et pour la première fois il apprit ce qui se disait dans le voisinage, touchant le père de Berthe. D'étranges bruits commençaient en effet à courir. Les uns disaient que M. Danglade pouvait bien être un employé de la police. Les autres affirmaient que c'était un agent de quelque prétendant. Tous s'appuyaient sur cette circonstance réellement singulière. On avait rencontré plusieurs fois M. Danglade par la ville, et toujours avec de somptueux habits et un équipage magnifique. Or, quand il revenait le soir dans la maison de la rue de l'Ouest, il rentrait à pied, quelque temps qu'il fît, vêtu de ce même habit noir que 2 ans de plus n'avait pas rajeuni. Évidemment, cet homme se cachait. Lucien ne pouvait rester sous l'effet de pareil bruit, et bien qu'il lui en coûtât beaucoup d'aborder ce sujet, il n'hésita pas à en entretenir Berthe. Chapitre 3. L'amour de Berthe. Il pouvait être 8 heures. Il faisait une de ces merveilleuses soirées qui semblent faites exprès pour la mélancolie et l'amour. Je ne sais quel prétexte avait pris Lucien pour pénétrer auprès de Berthe, mais il y avait déjà plus d'une demi-heure qu'il était assis à ses côtés, à 2 pas de la fenêtre ouverte. Tous deux plongeaient leurs regards dans les profondeurs pleines d'ombre du Luxembourg. Ils parlaient peu. Julien était ému, Berthe paraissait soucieuse. Le jeune sculpteur avait 1000 choses à dire et il n'osait en dire aucune. Il craignait d'interroger la jeune fille, et cependant il sentait qu'il ne pouvait vivre avec les soupçons étranges qu'avaient éveillés en lui les bruits qui couraient sur M. Danglade. Quant à Berthe, elle prêtait une oreille distraite aux bruits harmonieux qui montaient du dehors, et elle laissait errer son âme et son regard vers les régions inconnues que le ciel des nuits étoilées ouvre à la rêverie. Elle était belle ainsi. Sa taille jeune et forte se dessinait avec souplesse dans son corsage blanc. Son front éclatait de pureté sous le blond diadème de son opulente chevelure. Elle avait toutes les extrémités d'une finesse exquise. Ses lèvres roses laissaient voir en s'entr'ouvrant une double rangée de dents éblouissantes. C'était un ensemble de perfections qui défiait l'analyse. Lucien ne se lassait pas de l'admirer, et Berthe le laissait faire. Qui sait ? La coquette enfant était peut-être au fond du cœur, plus flattée de l'admiration du sculpteur que touchée de l'amour du poète. Lucien se rapprocha et lui prit la main. La jeune fille tressaillit. Sa rêverie l'avait emportée un moment vers les mondes impossibles. L'étreinte du sculpteur la ramenait brutalement et sans transition vers celui des réalités cruelles. Elle soupira. « Berthe, dit Lucien d'une voix timide et dont le tremblement témoignait d'une émotion profonde, j'ai une prière à vous adresser. « À moi ? » fit la jeune fille. « À vous, » insista Lucien. Berthe sourit. « Eh bien, qui vous arrête ? » dit-elle aussitôt avec une certaine vivacité. « Je n'ose pas. Vous avez peur ? » ?»« Voyez !» Et en parlant ainsi, Lucien mit sa main glacée dans celle de la jeune fille. Cette dernière eut un frisson nerveux à ce contact. « Mais voilà qui est étrange, vous en conviendrez, » dit-elle au jeune homme. « Est-ce donc moi qui vous fais peur ?»« Peut-être. »« Oh, moi, n'en êtes-vous pas certain ?»« Je ne sais. »« M'expliquez-vous alors, car pour peu que cela dure, je sens que votre épouvante pourrait bien finir par me gagner. » Et l'enjouement de Berthe produisit un pénible effet sur Lucien. Une ombre de tristesse passa sur son front, et son regard sembla adresser un muet reproche à la jeune fille. « Ce que j'ai à vous dire est grave, » reprit-il aussitôt. « Il s'agit de mon bonheur, Berthe, du vôtre aussi peut-être. J'ai hésité longtemps à vous parler, mais aujourd'hui il le faut. Et je vous en prie, si quelque chose dans mes paroles allait vous blesser, n'accusez que mon amour et ne m'en veuillez pas pour l'intérêt que je porte à tout ce qui vous touche. » Berthe avait d'abord écouté avec un étonnement indifférent, mais à mesure que Lucien parlait, cet étonnement se changeait en curiosité, et quand le sculpteur eut fini, elle lui jeta un regard singulier, dont il chercha vainement à s'expliquer la portée réelle. « Des choses graves, » dit-elle avec un fond de raillerie, qu'elle ne cherchait pas même à dissimuler. « Mon bonheur ?» Le vôtre ? En vérité, vous m'effrayez. Hâtez-vous donc de me dire ce dont il s'agit, car maintenant votre silence me laisserait une inquiétude que rien ne pourrait calmer. » Lucien était fort embarrassé. Il avait cherché cet entretien, il l'avait fait naître. Pour rien au monde, il n'y eut renoncé, et cependant, le sujet qu'il avait à traiter ne lui semblait pas exempt de danger. Déjà, il ne savait plus comment s'y prendre pour interroger Berthe, sans lui donner le soupçon de ce qui se disait en dehors sur le compte de son père. Écoutez-moi, Berthe, dit-il d'un accent ému, vous savez si je vous aime. Pour vous, je donnerais ma vie et mon sang, et cette gloire folle que j'ambitionne et que je ne puis plus acquérir désormais que par votre amour. Vous savez aussi que ma seule pensée est de faire de vous la compagne aimée de ma vie. Près de vous, je travaillerai, je deviendrai grand, et je mettrai tous mes soins, tout mon bonheur à vous rendre la vie heureuse et douce. « Je sais tout cela, fit Berthe, vous me l'avez déjà dit, Lucien, et je ne comprends pas. » « Tenez, Berthe, » repartit le jeune homme avec une sorte d'explosion. Je suis bien malheureux.
Vous ?
Oui, depuis quelques jours surtout.
Et pourquoi cela ?
Pourquoi ? Ah, parce qu'il m'est venu une pensée horrible à l'esprit et que je me demande avec effroi si votre père consentira jamais à notre union. Mais qui peut vous en faire douter ? Fit Berthe en fixant sur lui un regard sans trouble.
Tout !
Répondit Lucien. Mais encore ? Lucien s'était levé. Il se promenait à grands pas à travers la chambre. Les questions se pressaient sur ses lèvres. 20 fois, il s'arrêta indécis, cherchant à tourner la difficulté et n'y pouvant réussir. Enfin, il vint se placer à quelques pas de Berthe et reprit après un long silence. « Depuis quelques jours, dit-il, il se passe d'étranges choses dans l'hôtel que nous habitons. »«
Mais de quelles choses voulez-vous parler ? » interrompit la jeune fille.
« De la rue de l'Ouest et le quartier de Paris, qui ressemble plus à une petite ville de province, » poursuivit Lucien. « Tout le monde se connaît, et il est bien difficile d'y cacher son existence pendant longtemps. »
Mais qui donc se cache ?
Monsieur d'Anglade.
Mon père ?
On le dit, du moins.
Et pour quel motif ?
Voilà ce qu'on ignore.
Ah, et ce que vous voudriez savoir, n'est-ce pas ?
Au moment où je songeais à demander votre main à monsieur d'Anglade, je me suis trouvé arrêté par une objection.
Laquelle ?
Berthe, depuis que je demeure à 2 pas de vous, il ne m'est pas encore arrivé une seule fois de rencontrer monsieur d'Anglade.
Eh bien,
cela est au moins étrange.
Mon père a une existence bien occupée, Lucien. C'est pour moi qu'il travaille. Je l'ai souvent engagé à se ménager. Je l'ai prié de me laisser travailler moi-même. Il m'a toujours refusé.
Je comprends ce dévouement, cette abnégation, cette ardeur au travail de la part d'un père qui veut éloigner de son enfant de tristes préoccupations. Mais s'il en est ainsi, si c'est bien là le sentiment auquel il obéit, pourquoi, à ce que l'on assure, l'a-t-on souvent rencontré dans d'autres quartiers de Paris, vêtu avec luxe et vivant avec faste ? Il a un mystère. Pendant que Lucien parlait, Berthe était devenue pensive. Son front s'était baissé, son regard s'attachait maintenant au parquet avec une singulière fixité, son sein se soulevait avec précipitation, et elle était vivement agitée. Lucien craignit de l'avoir offensée. Douter de son père, c'était presque douter d'elle-même, et l'amour n'est pas une excuse suffisante à une pareille faute. Cependant, Berthe releva bientôt la tête et arrêta sur le jeune sculpteur un regard où ce dernier fut tout étonné de ne voir briller que de la satisfaction.
« Ce que vous venez de me dire ne me surprend pas, » dit-elle. « Ces remarques, je les avais faites déjà. Il y a en effet un mystère dans la vie de mon père, mais quel est-il ? Mon père est simple et bon. Toute sa vie n'a été qu'un long dévouement pour sa fille, et je me suis demandé bien des fois s'il ne cherchait pas en secret à réédifier la fortune qu'il a perdue pour ne me laisser que de la joie du succès. » Mon père est l'homme des calculs généreux. Il se cache pour faire une action héroïque comme s'il s'agissait d'un crime.
Ainsi, dit Lucien, avec un pénible effort, à l'heure qu'il est, votre père est riche peut-être.
Qui sait ?
Mais cette fortune, Berthe, ne croyez-vous pas qu'elle soit pour nous une cause de malheur ?
Comment ?
Mais si elle devait nous séparer à jamais ?
« Y pensez-vous ?
Mais je ne pense qu'à cela. Me préféreriez-vous pauvre? Peut-être. Singulière manière de m'aimer. Lucien ne répondit pas. Plus il avançait dans cette conversation, plus son cœur se trouvait froissé. Une vague terreur l'enveloppait peu à peu. Il n'osait plus interroger l'amour de Berthe. Il craignait que son ambition seule lui répondît. Cependant, le ciel s'était assombri, de lourds nuages noirs passaient dans l'air, un vent d'orage courbait les arbres du Luxembourg, quelques larges gouttes de pluie commençaient à tomber avec un bruit sec sur le pavé. Berthe alla fermer la fenêtre et Lucien se disposa à se retirer. « Vous partez ?» dit la jeune fille en se retournant vers lui avec un doux sourire. « Votre père ne doit pas tarder à rentrer. Vous m'en voulez, je gage. »« Moi ?» fit Lucien dont le cœur se gonfla. Berthe lui tendit la main. « Vous êtes un enfant, Lucien, lui dit-elle. Vous me croyez oublieuse, légère, ambitieuse peut-être, et vous ne vous rappelez jamais que j'ai toujours vécu seule et presque abandonnée. Ayez foi en l'avenir, mon ami, et croyez bien que, pauvre ou riche, je serai toujours la Berthe que vous aimez. » « Et qui m'aime, n'est-ce pas ? » ajouta Lucien, en baisant avec transport la main qu'on lui tendait. « Et qui vous aime ? » répondit Berthe avec une moue charmante, où il y avait peut-être plus de coquetterie que d'amour. Lucien s'éloigna, fou de joie. Il avait le ciel dans le cœur. Cependant, malgré le bonheur dont le souvenir des dernières paroles de Berthe avait rempli sa nuit, dès le lendemain matin, il se mit en quête de nouveaux renseignements sur le compte de M. d'Anglade. Il voulait avoir une bonne fois le cœur net de tous ses soupçons, et, moyennant une récompense honnête, il obtint du concierge de l'hôtel la promesse qu'on lui tiendrait au courant de tout ce qui surviendrait. Quelques semaines se passèrent dans l'expectative la plus poignante pour Lucien, et il désespérait déjà d'éclaircir le mystère, quand des événements inattendus vinrent tout à coup précipiter le dénouement. Un jour, M. d'Anglade était rentré de meilleure heure que de coutume, et en passant devant la loge, il s'y arrêta. Sa figure était défaite, une certaine pâleur mate était répandue sur ses joues. Il demanda, presque en balbutiant, si personne n'était venu le demander, et, sur la réponse négative du concierge, il recommanda de dire à tout étranger qui se présenterait pour le voir qu'il n'y était pas et qu'on ne pouvait préciser l'heure habituelle de son retour. Lucien, à qui ce détail fut raconté, épia dès ce moment une occasion favorable pour parler à M. d'Anglade. Mais il avait compté sans M. Michaud. En effet, à cette époque, un homme se présenta rue de l'Ouest qui demanda M. d'Anglade tous les jours avec une singulière persistance. Il attendait longtemps assis dans la loge et une fois sorti dans la rue, il faisait encore faction durant des heures entières. Le portier avertit M. d'Anglade. Celui-ci, au signalement de l'inconnu, parut se troubler et sortit aussitôt en priant de les conduire tout à fait. Mais la chose était difficile. L'inconnu, qui avait refusé de dire son nom, ne quittait presque plus la voie publique, si bien que M. d'Anglade ne vit pas d'autre moyen pour se soustraire à cette persistance que de donner congé et de changer de domicile. Malheureusement, il n'eut pas le temps de mettre son projet à exécution. Chapitre 4. Une visite inattendue.
La veille même du déménagement, l'homme qu'il semblait avoir tant d'intérêt à fuir entra le soir en même temps qu'une autre personne, passa inaperçu devant le portier, monta rapidement les 5 étages et vint frapper à la chambre de Berthe. Berthe était seule. Lucien s'était retiré depuis quelques instants. Elle n'attendait personne. Cependant, après une hésitation d'un moment, elle alla ouvrir. « Monsieur Danglade ?» demanda l'étranger en saluant à peine. « Il est sorti ?» répondit Berthe interdite. « je le sais, mais comme je tiens à le voir, je vais l'attendre. » Il entra et s'assit, sans plus de façon, sur une bergère placée au coin de la cheminée. 7 heures sonnaient à l'horloge du palais du Luxembourg. Berthe, effrayée d'abord, puis impatiente, allait, venait, s'asseyait le plus loin possible de l'inconnu. Un secret pressentiment lui disait que la présence de cet homme annonçait un malheur. L'inconnu, cependant, n'avait pas l'air de se douter que sa présence pût gêner quelqu'un. Assis carrément dans sa bergère, il inspectait du regard les objets qui ornaient les murs et suivait de temps à autre la jeune fille qui, dans ses évolutions inquiètes et troublées, à travers la chambre. Au bout d'une heure, il se leva, tira un cigare de sa poche, prit une allumette sur la cheminée et l'alluma. Puis il se rassit sans prononcer une parole. La jeune fille toussa bruyamment pour lui faire sentir l'inconvenance d'une pareille conduite, mais lui ne daigna même pas lever les yeux sur Berthe. « Ton père fumait autrefois, petite, dit-il seulement d'un ton railleur. Tu dois être accoutumée à cela. » Il la tutoyait. Il parlait de son père comme s'il le connaissait particulièrement. Berthe le regarda et un vague souvenir lui vint de cet homme. Jadis, elle avait dû le voir. Sans savoir pourquoi, en évoquant le souvenir d'une époque effacée, elle tressaillit et elle eut peur. Le reste de la soirée se passa en silence. La jeune fille était en proie à 1000 incertitudes, à 1000 terreurs. Elle songeait à son père qui semblait menacé. Elle n'osait ni dire un mot ni faire un pas. Elle lui donnait en ce moment tous ses beaux rêves d'ambition pour voir Lucien auprès d'elle. Lucien, comme elle l'aimait à cette heure, comme elle avait foi en lui, comme elle sentait que lui seul aurait pu la protéger et la défendre dans une semblable situation. Mais Lucien était absent et ne devait rentrer que fort tard. Berthe attendit. D'ailleurs, à part le fait de sa présence, Berthe vit bien tout de suite qu'elle n'avait personnellement rien à redouter de l'inconnu. C'était bien M. Danglade seul qui l'en voulait. Il n'adressa même à Berthe aucune question sur son père et se contenta de fumer tout en chantonnant quelques vieux refrains empruntés à une langue que Berthe ne connaissait pas, la langue d'argot. Enfin, vers minuit, on entendit un bruit de pas dans l'escalier. Et comme Berthe se levait pour aller au-devant de son père, l'étranger la retint rudement. « Reste là !» lui dit-il d'un accent d'autorité. La pauvre enfant se rassit effrayée. Au même instant, M. Danglade, qui avait une double clé, parut sur le seuil. « Pas encore couché, Berthe ?» dit-il avec surprise. Mais avant qu'il eût le temps de jeter un regard dans la chambre, Berthe lui désigna d'un geste l'étranger. « Un homme ?» fit M. Danglade en s'avançant précipitamment. « Michaud !» ajouta-t-il accablé.
« Fais sortir ta fille !» fit Michaud à voix basse. Et comme si Danglade se fût senti dominé par cet homme, il alla à sa fille, la baisa doucement au front, et lui serra les mains avec un redoublement de tendresse. « Laisse-nous, mon enfant, » balbutia-t-il, « laisse-nous. Monsieur est un ancien ami. J'ai à causer avec lui. » Berthe regarda son père avec étonnement, et sans chercher à comprendre quel lien pouvait exister entre son père et un pareil homme, elle se hâta de se retirer. Dès qu'elle fut sortie, Michaud se leva et marcha droit à Danglade. « Et maintenant à nous deux, » dit-il d'une voix railleuse et sèche. « Que diable, mon mignon! Ce n'est pas bien d'avoir fait banqueroute aux amis. À Toulon, on te dit mort, mais moi, je n'ai pas cru à bout de ça. J'ai du bonheur, vois-tu. J'étais sûr de te mettre la main dessus un jour ou l'autre. » « Mais que voulez-vous ? » dit Danglade, partagé entre le trouble et la colère. « Que voulez-vous ? Oh, excusez, on est donc devenu bégueule. Que voulez-vous ? Plus que ça de langage. Et c'est Danglade qui parle à Michaud, dit Toulon, dit « Assez, assez, que veux-tu ? À la bonne heure, ne t'impatiente pas, mon mignon. Je suis venu pour te dire, dame, sais-tu que tu ne ressembles pas mal à un honnête homme ?» Danglade frappa du pied. « Allons, pas de colère !» reprit Michaud avec un sourire moqueur. « On vous fait des compliments et tu te fâches. » « Me diras-tu enfin ce que tu veux ?» grommela Danglade. « J'approuve ton impatience, » répliqua Michaud. « Je ne veux pas abuser de tes instants. D'ailleurs, ce que je veux est simple, comme bonjour, je veux 100 000 francs. »«
100 000 francs ?»
Danglade fronça le sourcil et regarda Michaud en face. « Tu plaisantes, » dit-il. Et... dans ces deux mots prononcés d'une voix basse et concentrée, il y avait une terrible menace. Michaud soutint bravement le regard et répondit en supprimant son sourire, mais en haussant les épaules. « Quelquefois, jamais, quand je parle d'affaires, il me faut 100 000 francs. » Pour la figure, pour la taille, pour la force, de même que pour les manières, les deux hommes offraient un frappant contraste. Danglade avait une tête remarquablement belle et noble. Il était grand, fortement constitué. Ses façons étaient gracieuses et distinguées. Michaud, au contraire, était petit, trapu et large des épaules, mais déjà courbé par des excès de tout genre. Ses manières n'étaient plus que celles d'un loustic de taverne, et son visage, véritable enseigne d'infamie, présentait un type ignoble. Tous deux semblaient se mesurer de l'œil comme deux adversaires prêts à en venir aux mains. Danglade, les lèvres contractées, les bras croisés sur la poitrine, Michaud, une main enfouie jusqu'au coude dans la vaste poche de son pantalon, l'autre passé sous le revers de sa redingote boutonnée. « C'est ton dernier mot ?» fit Danglade d'une voix brève et saccadée. « Oui, mon fils !» répondit Michaud sans rien perdre de son assurance provocante. Le père de Berthe s'écroisa vivement les bras et s'élança sur Michaud. Mais ce dernier retira non moins vivement la main passée sous le revers de sa redingote et présenta un pistolet à Danglade. Celui-ci s'arrêta, tandis que son adversaire éclatait en un rire bruyant et railleur. « Halte là, mon bon !» dit Michaud. « Ah, ah, dame, nous connaissons tes manières. Quand tes associés te gênent, tu as un moyen. » Il fit un geste énergique et grotesque tout à la fois. « Connu, continua-t-il, mais on n'étrangle pas ton serviteur comme un castan. » « Mais silence !» interrompit Danglade, dont la voix tremblait de rage. L'argent était à nous trois, tu l'as pris seul. Tu as laissé le vieux Castade m'y étrangler, près des caisses dévalisées. Pourquoi donc ça ? Mais silence, te dis-je. Michaud craignit d'exaspérer si fort son adversaire que la vue des pistolets devint insuffisante à le contenir. Soit, dit-il, bon, c'est une vieille histoire, n'en parlons plus. Mais j'espère que te voilà devenu raisonnable à présent. Danglade était tombé dans une profonde rêverie. Écoute, dit-il, j'ai eu tort de te recevoir ainsi. Je savais bien, laisse, j'ai eu tort. Parce que sachant ma vie pensée, comme de mon côté je sais la tienne, je dois, enfin, nous devons nous ménager réciproquement. C'est juste, interrompit encore Michaud. Mais tu as un plus grand tort. Bah, tu viens, abusant de ta position d'homme qui n'a rien à perdre, me demander une somme dont je ne possède pas la dixième partie. « Minute, je t'arrête, tu mens !» dit Michaud avec un flegme imperturbable. « Oh, pauvre Michaud !» commençait Danglade d'un ton caressant. « tu mens, quand on vous demande 100 000 francs et qu'on n'a pas le sou, on rit au nez de l'ami qui se permet une telle inconvenance. Mais tu t'es fâché, tu as des fonds. Sur mon honneur, bêtise, sur ma parole, idem. » Tu mords de mieux en mieux. Qu'as-tu donc fait des 600 000 francs ? Tu passes tes journées dehors, tu as un établissement en ville, tu roules carrosse, tu as des larbis galonnés. Est-ce que je sais, moi ? Danglade ne put retenir un mouvement de surprise. « Oh, tu ne l'avoueras pas tout de suite, continua Michaud. C'est dans ton caractère. » Mais c'est égal, et de demain je m'établis en sentinelle à ta porte, je te suis partout. Danglade arpentait la chambre à grands pas. Si je ne découvre rien comme ça, reprit encore Michaud, alors je ne te dis pas sur mon honneur, moi je me rends justice, alors je te dénoncerai. Bon, tu ne le feras pas, Michaud, dit Danglade d'une voix suppliante. « Si fait, mon bon, je m'en crois susceptible, et ce sera de ta faute encore. »« Mais pourtant, dit Danglade, je ne puis pas te donner ce que je n'ai pas. »« sans doute, hé, mon mignon, je suis pas un juif. Je te demande ce que tu as, voilà tout. »« Mais tu me feras voir ta caisse ?»« Ma caisse ?» s'écria étourdiment Danglade. « Ah, tu en as donc une, je m'en doutais. Allons, et pourquoi jouer au fin avec moi ?» Il y avait certes dans la lutte de ces deux hommes quelque chose de profondément instructif, et si quelque spectateur eût assisté à cette scène étrange, il se fût assurément demandé lequel de ces deux hommes était le plus adroit et lequel était le plus coupable. Cependant, Danglade se sentait pris. Il y avait dans sa vie passée un secret terrible qu'un seul homme au monde connaissait, et cet homme était devant lui. Ce secret pouvait le perdre, et cet homme menaçait de le dévoiler. Danglade eut peur. « Écoute, dit-il, je te donnerai 10 000 francs, et Dieu sait qu'il ne m'en restera pas la moitié autant. » « Bon, le voilà qui marchande maintenant !» interrompit Michaud avec un geste de dédain comique. « Décidément, tu n'as pas changé !»« Bon, allez, je tiens à te montrer que je suis un bon prince, moi. Si tu veux, il y a un moyen d'arranger tout cela. Seulement, je n'entends pas que tu me mettes dedans. » Danglade regarda Michaud avec des yeux hébétés, stupides. Dans la naïveté de sa peur, il s'imaginait que les dernières paroles de son adversaire venaient de lui ouvrir une issue pour sortir de l'impasse où il était acculé. Et puis, Michaud avait dit que Danglade le tromperait. Il était donc possible de le tromper.
Il y avait donc un moyen de mettre cet homme dedans, suivant sa propre expression. Danglars eut un tressaillement de joie. Comment? Demanda-t-il à Michaud. Que veux-tu dire? Explique-toi. C'est facile à comprendre, répondit Michaud. Mais c'est peut-être aussi facile à arranger. Au lieu de prendre les 100 000 francs en question, je consentirai à devenir ton associé. C'est plus simple, et si cela te botte. Danglade semblait violemment combattu. Associer un pareil homme à sa fortune, à ses entreprises, c'était dangereux. Michaud était un compagnon avide de mauvais ton, et se livrant avec une naïveté fâcheuse à des prodigalités folles. D'un autre côté, en l'associant à ses travaux, Danglade s'assurait de la discrétion de son complice. Il savait qu'une fois assis commodément dans cette nouvelle existence d'aisance et de luxe, Michaud n'y renoncerait pas facilement. Il le tiendrait donc par le côté le plus sensible et cesserait d'avoir à le redouter. Son parti fut vite pris. « Soit, dit-il, tu veux devenir mon associé, eh bien tu le sauras. » À la fin, s'écria Michaud avec une joie qui ne chercha pas à dissimuler. Eh bien, tu prends le bon parti. C'est moi qui te le dis, vois-tu. Tu jouais gros jeu contre moi. Je n'avais rien à perdre et j'avais tout à gagner. La partie était trop belle. Ainsi, c'est dit. C'est dit. La caisse est à nous deux. À nous deux. Allons-y donc gaiement. Le bon temps va revenir, mais d'abord il faut que je te fasse de la morale. Oh, toi? Oui, moi, mon mignon, moi, Michaud. Tes allures ne me conviennent pas, il faudra en changer. Comment cela? Tu as deux noms, deux domiciles, deux existences. Eh bien, c'est mauvais, cela. Tu crois? Tôt ou tard, ça vient à se savoir. On jase, on fait les potins. Le public s'émeut et on finit toujours par se faire pincer. Oui, tu as peut-être raison. Si j'ai raison, je connais cela. Quand on veut réussir, il faut aller la tête haute et porter son nom sur son visage. J'en ferai mon profit. Et puis je serai là, que diable. J'ai l'expérience de la vie, moi. Je t'aiderai de mes conseils, c'est tout ce que j'ai. Ce sera mon apport social, comme on dit. Bon, je ne t'en demande donc pas d'autre. À la bonne heure. Demain donc, tu quittes cette bicoque? Justement, j'ai donné congé. Comme ça se trouve. Et après-demain, nous nous installons dans un autre quartier. Rue de la Chaussée-d'Antin. Fameux, c'est entendu. Mais, dit Danglade, tout cela peut manquer. Tu sais bien que personne, si mon crédit peut avoir des choses solides, je désirerais que ma fille n'habitât pas. Ben, elle est gentille, cette petite, rien de fait si elle ne vient pas avec nous. Danglade jeta sur Michaud un regard de haine. Il avait cru deviner sa pensée. Michaud, dit-il en se redressant de toute sa hauteur, « je te le défends, et si jamais, je te tuerai comme un chien, entends-tu ?»« Suffit, » répondit l'autre avec indifférence. « Tu m'as pas compris. Michaud ne s'amuse guère à ces bêtises-là. » Il était 2 heures du matin, les deux associés se séparèrent. Danglade ouvrit la porte du cabinet où dormait sa fille et approcha la lampe de son visage. « Pauvre enfant !» dit-il avec découragement. Puis, prenant le chemin de sa chambre à coucher, il ajouta entre ses dents. « Pouf ! Un crime de plus et je pouvais vivre tranquille. » Le lendemain, Lucien attendit inutilement Berthe à l'heure accoutumée. Puis il frappa à la porte de M. Danglade. Puis enfin il descendit à la loge.
« Monsieur Danglade ? » demanda-t-il avec angoisse.
« Parti, monsieur, » lui répondit le concierge.
« Parti ? » répéta Lucien en comprimant son cœur de ses deux mains.
« Oui, parti pour la campagne. Il laisse ses meubles pour paiement. Oh, de beaux meubles, ma foi. Oh, il n'avait pas l'air bien gai, allez. Et sa fille ? Oh, mademoiselle Berthe, pauvre chère enfant, elle pleurait. »
Lucien crut qu'il allait mourir. Il se retint à la muraille pour ne pas tomber.